Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça c'est de la vue!
Ah, c'est magnifique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène quelque part où je t'ai jamais emmené auparavant, sur un des continents où c'est assez rare de trouver des gens qui y sont allés. Je t'emmène en Antarctique avec Jenna. Comment ça va ?
Eh bien écoute, ça va super. Hyper impatiente de partager cette aventure avec toi, avec vous.
Ah bah ouais, non, c'est... En plus, t'es pas parti genre, salut, je vais regarder un petit peu genre les croisières qui se font en Antarctique. Non, toi, t'es parti en expédition scientifique pendant 3 mois en Antarctique. C'est pour ça que je trouvais ça complètement fou. Première question, déjà, on va mettre tout le monde au clair parce que tu sais, je pense qu'il y a un truc nébuleux entre l'Arctique et l'Antarctique. Où est l'Arctique, où est l'Antarctique ? Décris-nous un peu la différence.
Donc voilà, donc l'Antarctique, c'est au pôle sud et l'Arctique, c'est au pôle nord. Donc la différence majeure, c'est que l'Antarctique est un continent et l'Arctique, c'est l'océan Arctique. Donc
ouais,
l'Antarctique,
qui gèle.
Exactement,
ça, en fait. Ouais.
Qui gèle pendant l'hiver. Donc l'Antarctique est recouvert de glace et de neige, mais ça reste un continent, c'est-à-dire qu'en dessous, c'est de la croûte rocheuse.
Et c'est là la grosse diff, c'est aussi que finalement, l'Arctique, ça fond l'été, enfin une partie, et là c'est ce qu'on appelle la calotte polaire, c'est ce qu'on voit souvent, tu sais, internaute, quand tu vois le réchauffement climatique, c'est que l'Antarctique il fond parce que justement à la base c'est juste une grosse couche de glace, alors que l'Antarctique c'est un continent où il y a une couche de glace par-dessus un continent qu'on ne voit pas, qui est d'ailleurs malheureusement en train de se découvrir. Donc maintenant que ça c'est clair, on est dans le sud de la planète, Icaille. Pourquoi t'es allé là-bas ? Qu'est-ce que t'as été y faire ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est une bonne question. Alors, je confirme, il fait très froid. Donc, l'Antarctique, c'est un continent extrême, c'est-à-dire qu'il fait très froid, il y a du vent, c'est un peu l'endroit de l'extrême. Et donc, je travaille dans un institut qui est spécialisé dans les milieux polaires, donc Arctique et Antarctique.
Ouais.
Et donc, on va en Antarctique parce que c'est un endroit clé pour étudier le changement climatique.
Ah.
C'est un endroit clé pour plein de raisons, c'est-à-dire que bon, je vais peut-être aller en détail un peu après.
Vas-y. En ce moment, c'est le sujet. Hein. Tu peux y aller, le monde est au courant du réchauffement climatique. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a choqué personne.
C'est un endroit clé parce qu'on a la formation de masse d'eau qui remonte après dans l'océan et en fait ça régule le climat. Donc c'est vraiment un endroit très important à étudier et aussi pour d'autres raisons, pour l'absorption du CO2 dans l'eau
par les phytoplanctons.
Exactement, par le phytoplancton. Donc moi c'est vraiment ma spécialité, donc j'étudie le phytoplancton en Antarctique. Et en fait, l'Antarctique, c'est un puits de CO2 énorme hein, pour l'océan. C'est un des puits principaux de CO2. Donc, c'est très important d'étudier cette région. Et aussi, quelque chose avec les milieux polaires, donc que ce soit avec l'Arctique ou l'Antarctique, c'est des milieux qui changent très vite avec le changement climatique. Donc, c'est assez stratégique. Exactement, très sensible. Donc, surtout l'Antarctique en ce moment, c'est vrai que c'est un endroit qui est particulièrement étudié. En plus, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais il y a pas mal d'icebergs qui se sont détachés des barrières de glace, etc. Donc, c'est un milieu qui est en train de changer.
J'avais aussi entendu qu'il y avait tellement de réchauffement accéléré dans cette région du monde que... Ah non, je crois que c'était... Non, ça, c'est au pôle Nord. Aussi, où il y avait la toundra, tu sais, où... qui était en train de se dégeler et que en gros ça a donné accès malheureusement à des zones et donc à des forages de pétrole, des choses comme ça.
Exactement.
Même des gaz, mais ça c'est au pôle nord.
Et c'est plus au pôle nord, ouais.
Du coup en Antarctique, toi t'étais au bord de l'eau, j'imagine, t'étais dans quel coin, parce que c'est bizarre, je pense pas qu'il y ait de ville, donc on a du mal à situer.
Non.
T'étais situé où? Au-dessus de quel pays? Enfin, je ne sais pas comment on situe.
Oui. Donc, en effet, il n'y a pas de ville. C'est-à-dire que l'Antarctique, c'est vraiment réservé et c'est assez beau quand il y a le traité de l'Antarctique. C'est un endroit qui est pour la paix et la science. Donc, je trouve ça assez beau parce que c'est un endroit qui est dédié vraiment...
Espérons que ça dure, ouais.
Exactement, soit pour la nature, pour la découverte de la nature. Et donc, en fait, en Antarctique, il y a environ 50 stations scientifiques quand même, hein, de plein de pays différents. Et en fait... On va dire que chaque pays étudie un petit peu sa zone. Donc moi, j'étais avec un institut allemand, c'est-à-dire qu'on était dans la mer de Wedel. Et si tu vois la Patagonie, hein,
ouais,
donc
ouais.
la pointe de la Patagonie, on était un petit peu dans cette zone, donc la péninsule antarctique
okay.
et cette mer de Wedel qui est en face de l'océan Atlantique.
Ok, ouais.
Donc voilà, donc cette zone-là. Et cette zone-là qui est juste incroyable parce qu'elle est recouverte de glace pratiquement toute l'année. Et on a eu une fenêtre, donc on y allait pendant l'été austral, donc février-mars. On a eu une fenêtre où on a pu en fait rentrer dans cette mer de Wedel qui est un endroit voilà, incroyable de biodiversité. Et
attends, ça ressemble à quoi? Genre là, on met le casque de réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on voit là? Genre on est là, on est arrivé sur le spot dans la mer de Wedel. Ça ressemble à quoi? Y a quoi comme animaux, tu vois?
Alors, quand tu arrives en mer de Wedel, c'est-à-dire que tu passes par la péninsule antarctique, et là, c'est l'efflorescence de vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de baleines. Hein, donc,
ah
les
ouais.
baleines migrent dans cette zone. Et voilà, c'est juste magnifique.
C'est quoi
magnifique.
Plein de baleines? C'est 5, 10, 20?
Ça dépend. Autour du bateau, on en a vu quelques fois, mais si tu regardes au large, en fait, tu vois en fait, des pods, c'est-à-dire
ouais.
des, voilà, exactement, des groupes de baleines. Et c'est juste magnifique quand tu regardes au large, tu vois ces geysers, etc. Même une fois, on en a une très près du bateau. Enfin, c'est magnifique. Et aussi autour de la péninsule. Donc, en Antarctique, la biodiversité, c'est surtout près de la côte, hein, parce que c'est là où il y a
Bien
à
sûr.
Manger. Et surtout vers la péninsule, c'est vraiment là où il y en a le plus. Et les pingouins, c'est juste incroyable parce qu'ils sont très joueurs, ils sont aussi très curieux. Et donc, tu arrives là, dans la mer de Wedel. Donc là, c'est quand même, y a quand même de la glace.
Ouais.
Donc moi, j'étais à bord du Polar Stern, qui est un brise-glace. Donc ça nous permet vraiment d'aller dans des zones où il y a de la glace.
Okay.
Et là, c'est blanc. C'est vraiment... Alors, ça paraît bête de dire ça, mais c'est blanc. Mais c'est d'un calme, même pour les yeux, en fait. Et c'est juste grandiose parce que tu vois jamais la fin. C'est juste, et ce qui était incroyable, et même moi ce que je savais pas, c'est qu'on a eu tellement différents types de glaces sur la mer de Wedel.
Ouais.
Et donc moi qui connais pas trop à la glace, tu sais, il y avait j'adore le phytoplancton, je sais pas, mais il y avait un groupe de glaciologues, du coup c'était très intéressant d'échanger avec eux. Et en fait, tu as plein de types de glaces. Tu as des glaces en forme de pancake, en fait, ce qui est vraiment, vraiment pancake, ou la glace qui vient juste de se former, donc qui est très fine. Et tu as toutes ces nuances de blanc, toutes ces nuances de texture sur l'eau, et aussi donc avec le reflet du soleil. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est parce que pour les yeux, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau.
Mais tu sais, en plus... C'est marrant ce que tu m'as dit, c'est très reposant pour les yeux. Ça m'a fait tout de suite un flash dans ma tête de me dire, mais tu sais, aujourd'hui, on vit tellement dans un monde d'ultra sollicitation visuelle, mais ton téléphone, tu sais, quand tu regardes ton téléphone, tu n'as pas l'air, mais c'est des milliers de messages en une minute. Tu vas à la télé, c'est pareil, tu vas dans la rue, t'as des lumières, t'as des spots télé, t'as de la publicité. Et là, tu te retrouves non seulement dans un lieu nature, mais un lieu nature, tu sais, très neutre. Et je pense que ton cerveau, il doit être genre là, oh, tu sais, genre soulagement, genre pff, ça doit faire un bien, mais fou. Et pour revenir justement sur le fait, là, t'arrives dans la mer de Wedel, brise-glace, donc déjà un peu stylé quand même. T'arrives en brise-glace, genre, bon, nous on arrive chez nous en brise-glace, tranquille. Comment tu fais avant de monter sur ce brise-glace? Parce que toi, t'étais basé en Allemagne. Comment, c'est quoi? Tu prends combien de vols? Combien de temps ça prend pour arriver dans la base scientifique?
Alors, ouais, c'est une très bonne question parce que ça a été assez compliqué avec le Covid. C'est-à-dire qu'on a su qu'on partait assez tard. Du coup, donc si je prends un an avant l'expédition, c'est-à-dire début 2020, donc là, voilà, on sait qu'on part, etc. Donc, ouais, je suis surexcitée. Voilà, bon, il y a le Covid et on se dit, bon, peut-être ça ne va pas être possible.
Ouais.
Mais au final, l'Institut pousse vraiment à que ce soit possible. Donc, ils mettent tout un système en œuvre pour qu'on puisse partir, voilà, avec un système de quarantaine, etc. Et là, donc, s'ensuit 3 mois de grosse préparation, hein, parce qu'en fait, on a du mal à se rendre compte, mais c'est un boulot énorme de penser à tout. Donc, c'est-à-dire, je ne parle pas de tout ce qui est nourriture et tout, parce que ça, c'est notre logistique. Mais pour ma part, c'était voilà, tout ce que j'ai besoin pour faire de la science pendant 2 mois sur le bateau. Et donc là, c'est une très grosse organisation. Après, ouais.
C'est quoi en fait, typiquement pour le phytoplancton, c'est, on se rend pas compte, c'est quoi? C'est des, alors je te dis des bêtises, hein, c'est des plein de pipettes, c'est un nombre de pipettes et de trucs, tu sais, de. Non mais c'est bête parce que faut qu'il y ait, j'imagine que tu dois avoir des choses stériles et que si t'as besoin de refaire, tu sais, un prélèvement et que tu dis, bah j'ai plus ma pas pipette ou je sais pas quoi stérile, bah je peux plus en faire donc c'est foutu. Puis y a pas Amazon Prime qui va te livrer quoi.
Exactement. Exactement. Et le, donc. Sur le bateau, on utilise chaque groupe, donc on a tous un petit peu des spécialités, des gros instruments différents pour récolter de l'eau. Donc déjà, il y a ces, un petit peu de ces instruments à calibrer, etc. Et en plus de ça, exactement, c'est vraiment les, tous ces petits, des petits échantillons, des petits récipients pour pouvoir prélever. Et surtout que dans mon cas, j'étudie, peut-être je peux en venir après, j'étudie le phytoplancton et les métaux traces hein, avec le changement climatique. Et donc, je travaille dans un environnement ultra stérile. Qui fait que
dans le bateau,
dans le bateau. Et dans le bateau, c'est impressionnant. On a plein de laboratoires. C'est vraiment un bateau qui est dédié à la science. Et tu as des laboratoires comme tu as dans un, à l'université ou dans un institut. Ouais. Et donc, ça peut te permettre de faire des choses incroyables. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans un conteneur complètement stérile pendant tout le long de l'expédition. Ouais. Et voilà, je faisais aussi des expériences en parallèle. Du coup, je devais penser à prendre voilà, tout ce que j'avais besoin. Et pour te donner une idée un peu de ce qu'on a pris, moi et mon groupe, donc on a un groupe de 5 personnes, juste pour nous 5, bon, on, a... c'est qu'on fait une science aussi qui demande beaucoup d'instruments, donc ça dépend un peu les groupes. Mais on avait à peu près une soixantaine de, tu sais, ces boîtes en fer. Donc,
allez, ouais, les fly case, là, les trucs un
ouais,
peu.
Exactement. Ouais. Il y avait une soixantaine, plus des gros instruments qui nous permettent de prélever de l'eau. Donc, c'était, donc c'est vraiment une logistique énorme. Et c'est surtout, tu te dis, voilà, faut rien oublier parce qu'il faut aussi penser au coût, à l'investissement de ce genre d'expédition. Et tu ne peux pas te permettre de, voilà, d'être là-bas et de rien faire parce que tu as oublié des choses. Donc, faut vraiment se dire, bon, allez, on pense à tout, tout, tout.
Alors, du coup, tu pars d'Allemagne.
Voilà.
J'imagine que là, on ne parle pas de supplément bagage. Comment tu achemines tes 60 fly case, je sais pas comment, c'est un vol spécial, c'est quand même dans une compagnie, comment ça se passe?
Voilà, ça c'est très différent, c'est-à-dire que ici on a un département logistique hein, qui s'occupe vraiment de ça.
Ah,
en fait, okay. Le Polar Stern était au port de Bremerhaven avant. Et c'est tous les ans, ils font un petit peu le même chemin, c'est-à-dire que le Polar Stern part toujours en novembre.
Donc,
et il va à la station scientifique de Neumayer en Antarctique pour les ravitailler. Et en fait, en novembre, on a mis tout notre matériel déjà sur le bateau. Et nous, on a rejoint en avion le Polar Stern aux îles Falklands en janvier.
Ah oui, alors voilà. Là, faut que tu me situes les îles Falklands, parce que là, c'est quoi? C'est en sud-sud de la Patagonie, c'est ça?
Exactement, c'est vraiment exactement de la Patagonie.
Vous êtes allé tout au bout de ce que la Terre était possible d'aller, ou c'était possible d'aller sur Terre, et après, il vous a pris à ce moment-là, le bateau vous a pris le brise-glace pour aller jusqu'en en Antarctique.
Exactement, voilà, le Polar Stern nous attendait là, et en fait, on a fait un échange de
scientifiques.
Exactement, un petit peu ça. Les personnes qui revenaient de Neumayer sont reparties et nous on est arrivés et en fait les îles Falkland c'était un petit peu dernier moment, c'était avec le Covid au départ on devait partir de Cape Town d'Afrique du Sud. Tout a changé au dernier moment et avant de partir on est restés tous 2 semaines en isolement à l'hôtel à Bremerhaven. On a eu quelques tests, voilà, quelques tests, enfin même pas quelques tests,
une batterie
de tests, voilà, une batterie de tests Covid avant de prendre un avion de luxe parce que c'était un avion donc par Lufthansa et c'était leur plus grand vol qu'ils avaient jamais fait. Donc, on a eu un vol direct de Hambourg aux îles Falklands qui a duré à peu près 16 heures.
Wow.
Ça, c'était,
Ah oui, mais attends, vous étiez combien dans l'avion là?
Eh bien, on était tout l'équipage, donc on était une centaine à peine
pour
un avion. Ouais. Et c'était assez luxe hein, parce que tu es 100 dans un avion alors que l'avion peut prendre 300 personnes.
Ah oui, d'accord. Alors tu pouvais faire le truc que tout le monde rêve. Tu sais, c'est arriver dans l'avion dans un long vol de nuit et te dire que t'es tout seul sur la banquette de 3 et tu peux relever les appuis-tais et puis t'allonger. C'est ça.
Exactement.
T'as pu le faire.
C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. C'était vraiment cool.
Et du coup, attends, là, t'es en mode, on est au port, au fin fond du monde, en Patagonie, sur les îles Falkland. Tu montes sur le bateau. C'était la première fois que tu faisais cette expédition? Enfin, une
Ouais.
expédition. Ok, il se passe quoi là dans ta tête?
Ah
Enfin...
ouais, là c'est un mélange d'émotions. Donc du coup, on prend un petit bateau déjà. Bon, déjà on arrive, on prend un bus, après on prend un petit bateau. Et là, le petit bateau nous emmène au Polar Stern qui est ancré dans la baie. Et là,
Ah.
je le vois pour la première fois, enfin, pas vraiment pour la première fois, mais disons à cette distance. Et
Ouais.
là, c'est. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais vraiment vivre.
Ça ressemble à quoi? C'est comme un porte-container? C'est long comment? C'est large comment le bateau?
Alors, le Polar Chain, c'est 118 mètres, 120 mètres environ, donc c'est assez gros. Et non, c'est ça, voilà, ça ressemble à pas vraiment un porte-container, mais faudrait voilà, que je te montre des photos. Mais
On mettra le lien dans la description du
ouais,
podcast.
faudra mettre le lien, mais c'est un bateau incroyable, c'est-à-dire que bah, de par sa taille, c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment un bateau, tu vois, qui est axé science, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est fait. Voilà, pour faire de l'exploration, hein. C'est vraiment axé exploration. Aussi, donc c'est un brise-glace, il peut casser de la glace d'à peu près 1,5 m d'épaisseur, et
Ah
même
ouais.
si, voilà, même plus en faisant quelques.
Hein, si on met le turbo? C'est ça?
Exactement, le turbo, ça
Si
peut.
on se met en mode turbo, on peut éclater bien encore plus de
Monsieur.
glace.
Et
Waouh!
du coup, j'arrive sur le bateau, là, je suis impressionnée parce que déjà. Bah, déjà, je trouve pas ma chambre parce que c'est tellement grand.
Ah.
Et en fait, je me laisse un peu perdre sur le bateau et j'ouvre des portes, je me dis, mais je vais jamais m'y retrouver sur ce bateau. Et en fait, les premiers jours, je réalise pas tellement. Je suis un petit peu dans ma bulle. Et surtout qu'on vient de sortir d'isolement, on a pris l'avion, et t'es là,
Et tu te remets
t'as
en
pas de
isolement.
chambre,
Ouais, c'est...
et t'es OK, bon. Pour le cerveau, c'est un petit peu déroutant. Et je pense que c'était pour tout le monde pareil parce qu'on était tous extrêmement calmes, comme si on essayait de retrouver un petit peu nos émotions, un peu notre. Je pense que la situation Covid aussi fait que bah, tu es là aux Falklands alors que ouais, c'était
Ouais, c'est étonnant au
un peu un
début.
tout.
Un peu étrange,
Très
ouais.
étonnant.
Et du coup, quand t'as pris tes marques, vous êtes sur le bateau, il y a un moment où sur les 3 mois, vous étiez aussi sur la glace ou sur la terre ferme, sur une base, tu sais, les bases qui sont en permanence, enfin, permanente sur la glace, ou vraiment l'expédition, toi, tu l'as vécu 3 mois sur le bateau?
Alors, donc c'était au final avec vraiment sur le bateau, c'était un peu plus de 2 mois.
Ah ouais.
Alors moi, personnellement, j'étais que sur le bateau parce que j'étudie vraiment l'eau de mer.
Ouais.
Mais il y avait une équipe, donc on est à peu près, voilà, c'est à peu près je sais plus, 7 groupes qui étudient un petit peu différents topics. C'est-à-dire, bon, voilà, c'était l'eau de mer et le phytoplancton. Il y a des personnes qui étudient le mouvement des masses d'eau, d'autres qui étudient les pingouins et les phoques, et il y avait cette équipe glaciologue. Donc voilà, les glaciologues, pratiquement tous les jours, à l'aide de l'hélicoptère, étaient déposés sur différentes calottes.
Ah ouais.
Voilà, et eux pouvaient faire leur prélèvement. Donc eux étudiaient vraiment le type de neige, le type de glace, aussi l'épaisseur. Ils regardaient aussi comment la glace dérive avec les courants, etc. Donc moi, non, je ne suis pas du tout allée sur la glace. Je suis vraiment restée sur le bateau à prendre de l'eau de mer.
T'es en train de me dire qu'il y a tous les copains qui prenaient l'hélico et les bateaux pour aller s'amuser avec les icebergs, et toi,
Ouais.
t'étais dans ton container stérile en permanence, c'est ça?
Exactement ça, c'est
Oh
ce qu'à chaque
non!
fois je dis. Je me demande si j'ai pris le bon sujet parce que je suis toujours dans mon conteneur à pas voir la lumière. Non, mais j'ai aussi eu la chance d'aller en hélicoptère et de donc.
Ah ouais, tu t'es fait pote avec les mecs, je suis là, je peux pas venir squatter un petit peu là sur un vol.
Exactement, est-ce que je peux un peu m'incruster?
Tu m'étonnes. Du coup, c'est quoi, Jenna, c'est quoi la journée type? Enfin, tu sais, on pense 3 mois, c'est quand même noté dans ta bulle. À quel moment t'es justement, parce que comme tu dis, tu te perds dans un, c'est comme un bateau de croisière gigantesque, donc à l'intérieur tu vois pas forcément la lumière. Est-ce que tu vas souvent sur le pont? Comment tu t'organises? J'imagine que t'as tes journées de travail qui sont quand même assez longues. C'est quoi une journée type? En même temps, il fait jour tout le temps. Ah non, il
Ouais.
faisait nuit tout le temps ou jour tout le temps?
Non, jour tout le
Jour tout
temps.
le temps.
Ouais.
Ok, donc ok. Comment c'était quoi la journée type?
Alors, ça change tous les jours. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire
Ah
que la
ouais?
routine,
Ah, j'aurais
c'est.
cru que
Il y a une
l'inverse.
petite routine qui est au niveau du sommeil et de la nourriture. Donc, tu deviens très. Tu
Ouais.
vois? Tu deviens très structuré. En fait, si tu veux, on dépend de station. C'est-à-dire que. Avant de partir, on fait un plan de où on veut s'arrêter pour faire des prélèvements et faire toutes nos mesures. Donc ça, c'est vraiment décidé à l'avance. Ça change un petit peu. juste à cause de la météo. C'est vraiment le seul, la seule aspect qui nous fait changer, ou alors si on voit que la glace devient trop épaisse, etc. Et en fait, à ces stations, on arrive à des heures un petit peu random, tu vois. Des fois, tu arrives à midi, mais des fois, tu arrives à 1h du matin. Ah. Et en fait, tu dépends vraiment de ça. Et en fait, tous les jours, on a un briefing à 7h du soir. On regarde le planning du lendemain. Et là, tu regardes un petit peu quand on arrive en station et quand c'est ton tour de faire les prélèvements.
Ah ouais,
et quand tu vas commencer à travailler,
t'as un brief global, chaque équipe.
Exactement, c'est très, c'est un petit peu, c'est un
T'as une grande salle où tout le monde se réunit pour le brief et tout, ok.
Ouais, on a une grande salle, on se réunit pour le briefing, voilà, on expose les problèmes, les si et surtout le planning qui est très important. Et là, tu sais à quelle heure, bon, faut être un petit peu flexible parce que comme j'ai dit avec la météo, faut savoir être flexible. Et donc, moi, ça m'est arrivé pendant pratiquement un mois, en fait, je travaillais de nuit. Mais alors ça, c'était assez... j'ai complètement changé mon rythme, c'est-à-dire que je travaillais la nuit, j'allais me coucher vers 8 heures du matin et je me réveillais à midi tous les jours.
Et, c'est pas beaucoup d'heures de sommeil quand même.
Ouais, j'ai vraiment appris aussi à faire des siestes. Donc ça, c'était assez nouveau pour moi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis un peu retrouvée. Je me suis dit, bon, ça va. Et la deuxième chose qui est rythmée, c'est vraiment l'heure des repas. Donc ça aussi, c'est militaire, c'est-à-dire que tu as le petit déjeuner de 7h30 à 8h30, le repas du midi entre 11h30 et midi et demi, et le repas du soir, 5h30, 6h30, et c'est tous les jours comme ça. Donc ça, vraiment, ça rythme aussi tes journées.
Ah ouais, mais quand tu te couches, en fait, quand tu te réveilles à midi, un truc comme ça, ton petit déj, c'est ton... tu le prends le déj, quoi. Il n'y a pas de miel pop au petit déjeuner, là, à ce moment-là.
Non. Moi, je l'ai dit, je crois que je n'ai pas vu la salle du petit déj. J'y suis jamais allée. Mais après, ce qui est très bien, et ils savent que c'est difficile pour les scientifiques, c'est-à-dire que tu as aussi une cuisine avec un frigo et avec de la nourriture H24. C'est-à-dire que c'est fait pour que, si tu travailles jusqu'à 3 heures du matin, tu puisses aussi manger. Donc,
bien sûr.
Donc ça, c'est assez cool.
Et c'est un truc tout bête, mais vu que tu pars sur 2-3 mois... C'est quoi tes... je sais pas, est-ce que c'est comme les pompiers, tu sais, qui font des gardes et après ils ont un jour ou deux jours de récup? Ou est-ce que c'est 5 jours et le samedi, dimanche je me dis que, comme tu dis, c'est par rapport aux stations aussi, par rapport, si t'as une station super importante, t'arrives le dimanche, tu travailles le dimanche, est-ce que t'avais des... Bah, en gros, est-ce que t'avais des jours de libre ou pas, quoi?
Non, absolument pas. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que vraiment, on est quand on part en expédition, c'est 7 jours sur 7, 24-24. Tu travailles jamais 24 heures sur 24, mais en gros, disons que c'est aussi une question d'argent, c'est-à-dire que ça coûte tellement d'argent de partir en expédition. Et c'est aussi, on a des fenêtres de temps pour aller dans la mer de Weddell qui sont tellement restreintes qu'on peut vraiment pas se permettre de prendre un jour. Et au final, tu as du temps pour toi parce que quand on est en transit entre deux stations ou on remonte, tu trouves toujours un petit peu. Alors, c'est très fatigant, c'est sûr. Et tout le monde, à la fin, est vraiment fatigué. Mais d'un côté, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que tu es là pour le boulot. C'est aussi l'effervescence. Tu as envie de découvrir. Et du coup, c'est très différent. C'est-à-dire qu'un rythme comme ça, ici, en Allemagne, je le ferai jamais. Genre, c'est impossible. Mais sur le bateau, tu es là pour ça. Du coup, c'est en même travailler la nuit. Et puis, tu vois, tu as toujours des gens aussi qui sont autour de toi. Tu vois les copains. Tu vois, c'est très bonne ambiance. C'est très, très bonne ambiance.
Alors, c'est ça que j'allais te demander. C'est-à-dire que... Alors, au total, il y a combien de personnes sur le bateau? Tout confondu, avec l'équipage, etc.
On est environ 100.
100? Ah ouais, 100, c'est pas... Enfin, ça fait du monde, c'est pas 10 personnes, mais on fait vite aussi le tour, j'imagine, en 3 mois.
Ah oui.
Ouais, voilà. Et du coup, est-ce que c'est ambiance bonne enfant, sympa, tout le monde est cool? Ou est-ce que c'est un peu love story, tu sais, y a lui là, il y a Jackie, je peux pas me l'encadrer? Ou alors, tu sais qu'il y a Béatrice... qui a fricoté avec John, c'est le glaciologue, tu sais, le glaciologue un peu beau gosse. Est-ce que c'est un peu ça ou pas? Parce que t'es en vase clos.
Alors il y a un mélange de ça. Moi, ce que je me suis dit de l'expédition, c'est que ça reste une colonie de vacances pour adultes, et c'est vraiment une colonie de vacances où tu travailles. Mais alors c'est très bonne ambiance. Ou alors, et ça dépend un peu du match des gens. Mais je dois dire que pour mon expédition, c'était très très bonne ambiance. Il y avait vraiment des gens. Super, et c'était très très bon enfant. Voilà, il y avait pas, mais il y a des ragots, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que tu mets des êtres humains comme ça sur un bateau et t'as vraiment ça. Mais d'une bonne manière, c'était pas, c'était. Ça ouais, reste... comme je l'ai dit, C'était très bienveillant.
Ouais, il y avait pas, il y a pas eu de tension, il y a pas eu, parce que je me suis dit justement, humainement, t'en as tiré, est-ce que t'as tiré un peu des leçons, tu sais, de ce moment quand même en vase clos avec sans autre être humain à l'autre bout du monde. Est-ce que, je sais pas, il y a des leçons peut-être, tu dis bah en fait les humains ou peut-être sur toi ou peut-être, c'est quoi tout ce que t'en as retiré de ça, humainement parlant, je veux dire, non pas planctoniquement parlant.
Bonne question. Eh ben, j'y pensais à ça avant de partir et je dois dire que, en effet, j'ai beaucoup appris, premièrement aussi sur moi-même, ma manière à réagir face à d'autres types de personnalités qui dans la vie, c'est des personnes, par exemple, que j'évite, que voilà, je me dis, voilà, je ne peux pas travailler avec ces personnes-là, etc. Mais là, sur le bateau, tu dois réussir à matcher avec des personnes avec qui tu n'aurais peut-être pas matché dans d'autres circonstances. Ouais. Et c'est super intéressant de se dire, OK, on trouve un middle point un peu où on peut un peu se retrouver, on a compris qu'on était différents et ça c'est très intéressant. Et j'ai trouvé et j'étais vraiment assez stupéfaite de voir que c'est possible et que tout le monde a essayé de faire cet effort. Alors, quand je dis tout le monde, voilà, tu as toujours un petit peu des points des personnes, mais que pour le bien de un peu de la communauté, de la science et du moment, tout le monde s'est dit voilà, bah on fait tous un petit effort comme ça, on se retrouve au milieu, on sait qu'on est différent, qu'on réagit pas de la même manière et ça peut matcher. Et aussi autre chose qui m'a vraiment donné le sourire, c'est de voir après cette période de Covid, je me disais voilà, c'est quand même, on est hyper chanceux parce que là on va tous se retrouver, on va être tous ensemble, c'est quelque chose qui est pas arrivé depuis très longtemps, hein, de boire une bière avec un inconnu, etc.
Ouais,
et en fait, quand j'ai vu que l'humain se réadapte hyper rapidement à vivre tous ensemble, à être. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me demandais, est-ce que la situation actuelle, enfin, ce qu'on a vécu va un petit peu changer nos relations humaines. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, parce que l'humain s'adapte hyper facilement. C'est-à-dire qu'on s'adapte à des environnements différents très rapidement. Et situation inverse aussi.
Donc, ouais. Et justement, tu parlais de ce que ça, au-delà de ça, de l'aspect humain que tu t'es aperçu, c'est toi, en tant que personne, tu vois, en tant que Jenna qui est partie vivre quand même un voyage professionnel, mais qui était un voyage avant tout si personnel et humain, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'en as tiré? Est-ce que tu t'es découvert des qualités? Est-ce que t'as développé certaines choses? Est-ce que ton regard peut-être aussi sur la nature, parce que la nature que tu étudies depuis si longtemps, là d'être vraiment dedans pendant 3 mois, est-ce que tu as changé ce regard sur la planète? Enfin, c'est quoi vraiment le trésor intérieur, les leçons, les grandes leçons que t'as ramené de tout ça?
Ouais, alors il y a deux choses. Il y a plus voilà, l'aspect personnel où j'ai vraiment l'impression d'avoir pris confiance en moi, surtout en ce que je fais. C'est vrai que moi, scientifiquement parlant, j'ai toujours. Enfin, je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. Donc, finalement, ce que je fais, est-ce que c'est vrai? Voilà, quelqu'un qui remet toujours en question un petit peu ce que je fais. Ouais. Et en fait, là-bas, c'est vrai que j'ai pris confiance parce que je me suis rendu compte qu'aussi ce que je faisais avait du sens. Et c'est vrai que quand tu travailles derrière ton ordi, pendant longtemps, tu oublies un petit peu l'environnement sur lequel tu travailles. Et moi, c'est un rêve d'enfance qui s'est réalisé. Et c'est vrai que d'être là-bas et d'avoir réalisé mon rêve et de me dire, voilà, c'est ma passion, c'est aussi mon travail, ça m'a donné une force incroyable de continuer ce que je fais. Et ouais.
Ah non, ouais, vas-y, continue. Je trouve ça dingue de dire que t'en rêvais depuis toute gamine. Et au-delà du boulot que tu devais faire tous les jours, tu devais des fois, tu sais, avoir ces petits moments de pleine conscience, de dire « Waouh,
exactement.
Je le fais là, là je suis en train de le faire. »
Exactement, c'est le moment où tu te poses sur le pont et là tu regardes et tu sais, tu dézoomes. Souvent j'aime bien faire ça, je prends Google Maps et je me dézoome sur la map et je me dis « Voilà, je suis là. » Et là tu te dis « Waouh, c'est juste, il n'y a pas de mots en fait, c'est très dur à expliquer, c'est très dur à mettre des mots là-dessus, c'est très puissant. » Et voilà, la deuxième chose, c'est vraiment de voir tant de beauté. Pour être honnête, l'Antarctique, c'est vraiment un endroit qui laisse sans mots de par ses... Comme j'ai dit, c'est extrême, il fait très froid, il y a du vent, il n'y a rien. C'est un désert. C'est blanc, il n'y a pas d'odeur. C'est extrême et c'est vraiment quelque chose qui te met à... qui laisse sans mots et qui aussi te montre à quel point la nature est belle, la nature est forte et qui te donne vraiment la force de continuer, voilà, à faire ça, quoi, à continuer la recherche, à continuer la protection, la préservation, et aussi en parler autour de toi, le dire. Ça, pour moi, ça, c'est très important, le partager autour de moi.
Ouais, parce que je pense que, en fait, ce qui est beau aussi, c'est, tu vois, ce qui aurait été triste, c'est de revenir, de dire, de t'apercevoir que finalement, les dégâts que tu entends parler aussi dans les médias et que tu dois toi aussi étudier, tu arrives sur place et t'aurais eu l'impression de te dire, bah, en fait, c'est foutu, tu vois. Enfin, genre, en fait, j'imagine qu'il doit y avoir des résultats qui doivent pas être très bons. Hein. En ce moment, on doit pas avoir une super note. Mm-hmm. Mais en fait, t'es tellement, je pense, plongé, émerveillé par la beauté, comme tu dis, que t'en reviens quand même remotivé et t'as envie de sauver quand même. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu me dis.
Oui, carrément, parce que franchement, dans mon boulot, et tout le monde, hein, quand tu fais de la recherche, ça a des moments où tu es juste démotivé parce que voilà, les résultats sont là et on les partage d'une certaine manière. On est malheureusement de plus en plus écouté, mais toujours, c'est quand même difficile de donner une voix à la science. Et c'est dur, tu te dis, bon, au final, peut-être ça sert à rien que je fasse de la science. Et plusieurs fois, j'ai vraiment eu, enfin même pas plusieurs fois, tous les trois jours, j'ai cette pensée de me dire, bah voilà, je vais arrêter la science et je vais plutôt faire de la médiation ou alors...
Des actions concrètes, on va dire.
Exactement,
ça,
des actions bien plus concrètes que la recherche qui est quand même derrière. Et finalement, quand j'étais là-bas, j'ai rechangé. Je me suis dit non, je veux quand même continuer, je veux quand même creuser, etc. Et peut-être faire les deux en même temps. Mais exactement comme tu as dit, en fait, de dire bon, il faut quand même se battre. Il ne faut pas continuer.
Il ne faut pas lâcher l'affaire. Mmh. Et pour parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, on est quand même sur un brise-glace en Antarctique, en train de faire une des expéditions scientifiques les plus dingues jamais faites, tu vois, enfin, tu vois, celle qui se reprend, enfin, c'est fou. Qu'est-ce que t'as vu de dingue, enfin, à quoi t'as assisté, où tu dis, je sais pas, des icebergs qui se baladent, ou je sais pas, des orques à côté du bateau, ou quand tu prends l'hélico, ou peut-être quelqu'un tombé dans l'eau, j'en sais rien, enfin, c'est quoi les trucs les plus fous qui t'ont marqué, peut-être à l'intérieur du bateau aussi, auquel t'as assisté, je sais pas, si t'as été dans la machinerie, ou... Visuellement, c'est quoi qui t'a marqué?
C'est marrant, à chaque fois tu t'as bien parce que plusieurs choses que tu as dit, c'est des choses que je veux raconter. Non, mais c'est super. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais en fait, pendant qu'on était en Antarctique, dans la mer de Weddell, au même moment, l'iceberg A74, qui est au niveau de la barrière de glace, peut-être aussi, je peux envoyer un lien, comme ça ce sera plus facile pour visualiser, qui s'est détaché. S'est détaché en fait de la barrière de glace. Et on était là-bas au même moment.
Attends, parce que quand tu dis iceberg, franchement, je pense que tout le monde pense comme moi, il voit un espèce de gros morceau de glace qui flotte comme un glaçon géant dans l'eau. Là, on parle d'un truc qui fait plusieurs kilomètres, c'est ça ou, enfin,
exactement.
C'est quoi à peu près les dimensions de ce cher iceberg?
Alors, la 74, je crois, c'est 5-10 fois Manhattan. Faudrait que je retrouve exactement le. Ouais, c'est... non, c'est énorme.
Ah, c'est 10 km de long sur 50 km, un truc comme ça. Ah, d'accord.
Ouais, c'est énorme. Et là, il y a quelques jours, il y en a un autre qui s'est détaché. Je crois que c'est A76, c'est un des plus gros qui s'est détaché de la barrière de glace de Rhône, donc plus au sud de la mer de Weddell. Lui, il est encore plus gros, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est une île, quoi.
Quelque chose comme. Demi-Corse.
What?
Ouais, c'est vraiment des énormes morceaux qui se détachent. Ah, c'est vraiment
Et du coup, ils se baladent là, ils partent un peu dans l'océan ou c'est des grosses failles en fait.
C'est plutôt donc là, donc on était là-bas et on s'est dit bah on va les voir.
Ah, ouais, cool. Ok, cool. Ouais. Retournons sur l'anecdote. Ouais, on va aller
on
voir.
On va voir la 74. Et en fait, il se déplace en effet, mais assez lentement. Hein. Donc, c'est pas, il dérive, parce que c'est des énormes blocs de glace. C'est un morceau de la barrière de glace, c'est-à-dire qu'on est sur des épaisseurs, voilà, on est sur 150 mètres de glace. Hein. C'est vraiment des gros morceaux. Et en fait, il bouge. Alors, c'est quand nous, on a vu, donc par les images satellites, ça nous laissait une entrée, en fait, entre la barrière de glace et la 74. Du coup, on s'est dit, on va passer entre les deux, comme ça on va faire des prélèvements, on va faire les prélèvements dans cette faille pour voir en fait ce qui se passe dans ces barrières de glace.
Attends, attends, Jenna, attends, excuse-moi, mais là, attends, il y a une faille entre un truc qui est la taille de Manhattan, enfin trois fois Manhattan et la calotte polaire, tu rentres dans cette petite fissure, T'as pas peur qu'ils fassent marche arrière et qu'ils vous remettent comme une grosse crêpe, non?
Alors du coup, quand on parlait de ça, moi je me suis dit non, mais là ça devient très extrême. Et en fait, non, ça paraît plus extrême que ça l'est parce que la faille est en fait énorme. C'est-à-dire qu'on a du mal à se rendre compte, mais on était sur, enfin, si je me rappelle bien sur ce qu'on a vu, on est sur des voilà 1 ou 2 kilomètres hein, de faille. Du coup, tu passes.
Ok. Ouais. Le seul
danger, c'est qu'il y a des morceaux de glace qui se déplacent. Donc ça, c'est pas. On n'est pas resté longtemps. Hein. Donc on a décidé d'y aller. Et là, la météo était pas bonne. Du coup, on a attendu une fenêtre. Et dès que la fenêtre météo, on est rentré dans la faille. Donc là, je me rappelle, j'ai passé toute la nuit sur le pont. Je voulais à tout prix voir quand on rentrait dans cette faille. C'est juste incroyable, quoi. Et là, on avait 3 stations à l'intérieur de cette faille, où on a fait un programme énorme, c'est-à-dire on prenait de l'eau, mais aussi on prenait du sédiment. Un groupe aussi avait une caméra qui se dépose sur le sol. Du coup, ils prennent des vidéos du sol.
OK.
Donc voilà, on a fait plein de mesures à 3 points différents. Et là, c'était incroyable parce que quand on a voulu se déplacer, en fait, on commençait à avoir pas mal de morceaux de glace qui se détachaient de la faille, qui se détachaient de la 74. Du coup, c'était un petit peu là, faut qu'on sorte,
là.
En fait. Là, c'est pas, on va pas rester là. Et on est parti. Et on n'est pas resté longtemps hein, au final. On est resté peut-être un jour et demi, hein, le temps de faire ces 3.
Alors moi,
quand
je dis pas longtemps, c'est 20 minutes. Mais ok, d'accord, c'est un jour et demi, d'accord, ok.
Ouais,
pas longtemps, t'as le temps de là par la faille quand même.
Ouais, on l'a bien vu. Et je me rappelle de ce matin-là, donc je me réveille quand on est dans la faille, un grand soleil. Il faut savoir qu'on a eu une météo atroce hein, pendant 2 mois, mais ce jour-là, il faisait très beau. Et là, tu te réveilles et je me rappelle avoir vraiment vu devant moi cet iceberg. Et pareil, d'une beauté, mais c'est majestueux, c'est tellement grand, c'est tellement gros. Tu te dis, tu sais, t'entends iceberg, etc. Mais c'est vrai, de le voir en face de toi, c'est juste. Tu dis, ouais, ça existe.
Ouais, ça va être complètement fou. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'ont marqué durant cette expédition?
Ouais, il y a autre chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que sur le chemin du retour, on s'arrêtait dans Atkabe, qui est en face de la station allemande Neumayer, qui est une station permanente, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui hivernent là-bas, qui restent toute l'année pour faire.
Okay.
Ouais. Et là, on a récupéré donc des personnes qui ont hiverné pendant, au final, presque 13 mois, parce qu'à cause du Covid, on n'a pas pu. Enfin, il y a eu un délai dans le changement d'équipe. On a récupéré ces personnes-là. Alors, eux qui n'ont pas connu le Covid, hein, pas du tout, parce qu'ils sont partis novembre 2019 et on les a récupérés mars 2021. Quoi,
la vache. Ils étaient combien, les gars, là? Enfin, les gars ou les filles, d'ailleurs?
Eh bien, en hivernage, donc, ils sont à peine 10.
Oh,
c'est ça qui... Ouais.
Et on là tu as intérêt à bien t'entendre, là. Là, tu as intérêt à prendre sur toi, là. Oh,
mais du coup, j'ai pas mal parlé avec eux parce que je trouve ça juste incroyable aussi d'une manière, manière humaine. En fait, avant de partir, ils ont un stage. Tu pars pas comme ça en hivernage, c'est assez compliqué comme processus.
Ouais.
Donc, tu es sélectionné et après, en fait, une fois qu'ils ont sélectionné une équipe, tu pars pour un stage de 4 mois dans les Alpes. Donc, c'est aussi
pour devenir la personne la plus cool du monde, en fait. Ils prennent les personnes les plus gentilles du monde, en fait. Tu sais, les mecs colériques, chiants, mais toi, tu dois dégager vite fait.
Exactement. Non, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu as des tests psychologiques et pendant ces 4 mois, ils vivent ensemble.
Ouais.
Ils décident ensemble s'il y a quelqu'un qui...
Ça ne colle pas.
S'il peut avoir des conflits, etc. Donc, c'est vraiment une équipe qui se forme. Et voilà, et ils partent ensemble quand tout le monde est OK pour qu'il y ait cette équipe. Donc, c'est juste...
C'est un voyage d'un an, un an et demi. Wow,
et puis, t'es tout seul. Et Neumayer, quand t'es sur... C'est pas pareil qu'être sur les îles, hein, parce qu'être sur le continent, il n'y a rien. C'est blanc, c'est...
C'est quoi les questions que tu leur as posées, et c'est quoi les réponses surtout qu'ils t'ont données? Ils étaient déphasés, les mecs, enfin, tu vois,
c'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit, vous vous sentez comment maintenant? On rentre et tout. Et au final, ils étaient plutôt bien. Je pense que ils ont dit quand même que ça n'a pas été facile, surtout quand il y a eu le Covid et que ils pensaient rentrer donc quelques mois avant. Et on te dit, bah non, tu dois rester encore 3-4 mois.
Repousser tes barrières mentales, quoi.
Ouais, ce qui à la fin, ce qui devient énorme. Et on dit, voilà, on a eu quelques mois quand on a su qu'on allait rester plus longtemps, on a tous eu un petit down. Et au final, on a repris, etc. Et ils ont tous dit qu'il y a eu une super cohésion d'équipe, donc il n'y a vraiment eu aucun problème.
Wow.
Que ça s'est très, très bien passé et ils sont vraiment aidés, surtout quand tu sais que voilà, il y a tes proches qui vivent une situation en Europe qui est pas très cool.
Ouais.
Et au final, ils étaient tous un petit peu contents de rentrer. Ils avaient tous peur, mais assez contents.
Est-ce qu'ils se sentaient très mauvais parce qu'ils ne se douchent pas beaucoup?
Exactement, ouais. Ils vivent. Non, mais tu sais que ce soit le Polar Stern ou Neumayer, c'est luxe. Hein. Enfin, c'est...
Ah ouais?
Oui,
Neumayer c'est... aussi, même sur le continent.
Ouais, parce qu'ils ont une station. En fait, ils font tout. C'est-à-dire que l'hiver, dehors, il fait. Tu tapes du moins 50. Enfin, c'est extrême. Et il faut à l'intérieur. Voilà, tu sois bien, c'est-à-dire que tu manges bien, tu as une salle de sport, un petit sauna, voilà, bon, c'est le minimum. Il y a des espaces où tu peux être tous ensemble pour passer du bon temps. Voilà, ils essaient de protéger la santé mentale, quoi.
Est-ce que, ça c'est un truc tout bête, mais est-ce que justement sur le bateau, ou même sur la station, mais surtout on va revenir sur le bateau, tu as une très bonne connexion internet pour justement. Être relié en permanence et envoyer les résultats des expériences. Je dis ça parce que je pense que le voyage mental et intérieur n'est pas du tout le même si tu peux aller sur Netflix tous les jours et être sur Instagram ou si tu as assez de connexion pour envoyer tes résultats d'analyse, mais pas assez pour être tout le temps en train de surfer sur Internet.
Exactement. Alors, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que non, la connexion Internet est très mauvaise. Tu l'utilises vraiment de temps en temps pour checker des mails ou envoyer des messages importants.
Sur de la messagerie, quoi.
Exactement. Mais après, pour aller surfer sur Internet et tout, tu peux essayer. Hein, mais ça va te prendre une demi-journée pour aller sur YouTube et tu vas… et surtout que tout le monde va être très énervé que tu utilises la connexion pour ça. Par contre, tu peux appeler tes proches par téléphone satellite. Donc voilà, tu peux acheter une carte et le faire. Mais pareil, c'est quand même assez coûteux. Bon, pas très coûteux en soi. Donc, tu ne le fais pas non plus tout le temps. Tu le fais quand c'est sympa de temps en temps. Mais...
Et t'as fait quoi cette digital détox de tous les contenus qu'on peut dans notre vie de tous les jours aujourd'hui et consommer en grande quantité?
Franchement, j'ai adoré parce que, alors, par exemple, quand je suis arrivée aux Falklands, mon téléphone ne marchait pas parce que j'étais aux Falklands et au début, sur le bateau, voilà, il n'y avait pas le Wi-Fi qui était mis en place. Et tu vois, je commençais à stresser, je me dis, il faut que je dise à mes proches que je suis arrivée, que tout va bien, etc.
Ouais.
Et j'avais ce stress en fait de donner des nouvelles parce que les gens attendent que tu donnes des nouvelles.
On attend après.
Et petit à petit, en fait, voilà, tout le monde a compris. Si je leur ai dit, voilà, mon internet est assez mauvais, donc je peux de temps en temps envoyer des messages, mais pas souvent. Et en fait, ça te libère aussi parce que tu n'as pas envoyé de message, tu n'es pas obligé. Et c'est cool de temps en temps, tu as aussi envie de raconter à tes proches. Mais c'est-à-dire que tu poses ton téléphone quelque part et tu le reprends le soir, et c'est vraiment.
Ça t'ancre dans l'instant présent, ça te remet dans
l'instant
présent.
Exactement, ça te remet dans l'instant présent. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est avant de... Aussi, quand tu vas dans ton lit, c'est-à-dire que tu prends ton livre, ou même, franchement, c'est la première fois que ça m'arrivait maintenant, j'allais dans mon lit, et en fait, juste, je faisais rien et je m'endormais. Quelque chose que, ici, je ne fais jamais, parce que soit, bon, soit je prends un bouquin, ou même soit je regarde une série, ou je check mes mails une dernière fois, ou j'envoie deux, trois messages. Exactement,
la dernière dose de dopamine que ton cerveau te réclame avant de dormir.
Exactement,
en fait.
Le dernier check. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est-à-dire que je pense que quand tu es dans un endroit comme ça, c'est encore plus fort pour déconnecter, de dire voilà, le téléphone, les réseaux sociaux, etc.
Tu sais que tu es là pour ça, en fait. En plus, tu sais, là, il y avait du boulot, donc tu as autre chose aussi de quoi t'occuper. C'est pas que tu... D'ailleurs, c'est ça que je voulais te poser la question. Est-ce que tu as eu des moments de solitude ou d'ennui, malgré le fait, tu sais, que... Vous êtes 100, t'as beaucoup de travail, mais parfois, tu sais, t'as pas vu tes proches peut-être pendant longtemps et t'es dans un vase clos. Est-ce que t'as été ce sentiment un peu de solitude, peut-être de mal-être ou quelque chose comme ça?
Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu surtout au milieu, quand il y avait pas mal de boulot, etc., qu'il y avait eu deux, trois petits soucis avec des prélèvements, enfin, rien de grave en soi. J'étais pas au... Bon, tu sais, t'as des jours où, voilà, un peu gronchon, etc., Et j'ai eu ce sentiment, au final, t'es là, tu vois, là, je suis entourée de 100 personnes, je les aime bien, etc., mais c'est pas ma famille, c'est pas mes copains, c'est pas mes proches, et t'as ce sentiment d'être entourée aussi, d'être seule, et en même temps de jamais pouvoir être seule. C'est ça qui est un petit peu paradoxal. Aucun moment tout seul. Moi, je partageais ma chambre avec 3 personnes. C'est-à-dire que l'intimité, elle est zéro. Et les endroits où tu peux te poser pour lire, etc., c'est plein. C'est-à-dire que y a beaucoup d'endroits communs, mais il y a très peu d'endroits où tu peux être tout seul. Seul endroit où tu peux être tout seul, voilà, c'est dans la douche ou quand tu es au téléphone, dans l'espace téléphone. Et ça, c'est un petit truc aussi. Mais bon, au final,
Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ça? C'est quoi? C'est écouteurs? C'est tu te plonges dans un bouquin? C'est tu sais, la méditation? Je sais pas.
Ouais, moi, je prenais mon livre ou alors j'allais à la salle de sport. Le sport me faisait beaucoup de bien sur le bateau. Quand la mer était OK, quand ça bougeait pas trop, j'allais souvent à la salle de sport. Après, je prenais un temps que pour moi, c'est-à-dire voilà, je me prenais après, je me posais un petit peu avec un livre ou écouter de la musique. Je me dis OK, ça c'est une heure, elle est que pour moi. Et des petites choses comme ça. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, j'ai remarqué que j'adorais en fait ce côté social et d'avoir toujours du monde autour de moi. À la fin, c'était un petit peu le contraire, c'est-à-dire que j'aimais trop qu'il y ait toujours du monde, que ce soit un peu communauté, d'avoir toujours des... Ce qu'il y a aussi, c'est que tu te lis très vite aux gens et d'une manière assez... c'est-à-dire que tu crées des amitiés très fortes, très intenses, parce que voilà, tu es tout seul ici. Et c'est vrai que plus vers la fin, hein, on a créé vraiment des amitiés fortes avec quelques personnes. Et tu vis une vie qui n'a rien à voir, en fait. Hein. Tu vis... tu vois, on te fait à manger. Il y a des petites choses comme ça. T'es tellement déconnecté du vrai monde. Et ça, faut pas l'oublier. Hein, c'est que tu vis pendant 2 mois une vie qui est... C'est pas la vraie vie. C'est autre chose. Et faut pas, faut pas l'oublier.
Comment ça a été le retour à la vraie vie, du coup, Jenna? Est-ce que... La vraie vie covidée quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, t'es confinée toute seule versus confinée avec 100 personnes, avec des icebergs autour, c'est pas le même délire, tu vois?
Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que quand je suis rentrée en Allemagne, voilà, j'étais pas seule et je ne vis pas seule. Du coup, au final, j'ai pas vécu ce moment d'extrême solitude. Mais j'ai vécu une ou deux semaines où j'étais complètement perdue, c'est-à-dire que je devais être très, très bizarre. parce que tu reviens et c'est, en effet, c'est le Covid, tu es chez toi et premièrement, la vie te semble un peu ennuyante comparée parce que tu viens de vivre un truc complètement fou.
Tellement intense, ouais.
Tellement intense et là, tu retournes à des émotions... beaucoup plus plate en fait. Et c'est une question d'émotion, c'est-à-dire que tu vis des trucs incroyables, tu es en haut de la montagne russe et là tu redescends à la vie normale. Et là, ouais, du coup, un petit peu l'ennui, un petit peu bon, c'est sympa, mais. Et aussi la nostalgie, j'arrêtais pas d'y penser. Je regarde des vidéos sur l'Antarctique, je me dis, je vais aller à Neumayer, je vais aller faire un hivernage, toujours plus. Et je me suis dit, bon, je vais me laisser du temps. Et maintenant que voilà, je suis bien revenue, etc., je me sens très bien. Et je me sens plus, voilà, j'ai vécu un truc incroyable, j'ai vécu des émotions très fortes. C'est trop bien. Mais aussi, je suis trop bien aussi dans ma vie et qu'il n'y a pas besoin de vivre des émotions extrêmes pour pouvoir apprécier, pour pouvoir aussi être heureux tous les jours. Et ça, c'est important, hein, parce que sinon, c'est un petit peu addictif, en fait.
Bien sûr.
C'est très addictif. Donc,
Et qu'est-ce qui t'a fait cliquer, en fait, justement, sur ce côté de « Waouh, ok, j'ai été goûté à l'intensité même de chaque émotion, chaque instant, et de te dire « Ouais, en fait, c'est à moi de déterminer ce qui est intense aussi, c'est-à-dire que vivre un moment simple, ça peut être puissant aussi. » Comment t'as cliqué? C'est juste le temps qui t'a permis ça ou c'est à un moment donné, je sais pas, t'as fait quelque chose, t'as tes pensées qui ont commencé à être régurgitées de tous ces moments et t'en as tiré cette leçon?
Ouais, je pense que c'est un mélange, c'est-à-dire que à un moment je me suis dit voilà, la vie c'est ça, c'est la vie tous les jours, c'est aussi c'est des petites choses du quotidien, c'est pas d'aller en Antarctique la vie de tous les jours. Et je me suis dit voilà, c'est un choix, c'est-à-dire que après moi je sais que je suis comme ça, j'ai toujours besoin de projets, de nouveaux trucs, de nouvelles aventures, etc. J'ai besoin d'être drivée par un petit peu quelque chose de nouveau tout le temps. Et c'est aussi une décision que j'ai prise avec moi-même de pouvoir toujours avoir ces projets, mais aussi de voilà, de pouvoir être heureuse dans des moments très simples et des moments du quotidien et d'accepter d'avoir une vie un petit peu plus posée de temps en temps. Et c'est vrai que depuis toujours, voilà, je déménage tout le temps, ou je voyage, ou si, ou ça, je trouve toujours un prétexte pour un petit peu partir, sauter dans un avion, etc. Et que c'est quelque chose, maintenant j'ai de plus en plus envie de peut-être avoir une vie un petit peu plus posée, que j'aime énormément, toujours en ayant mes projets de côté, mais trouver un meilleur équilibre, on va dire.
Super intéressant. Et pour finir sur la partie, justement, je veux qu'on retourne une dernière fois dans la partie waouh. Est-ce que, en termes de vie, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de vie animale, c'est quoi le truc le plus waouh que tu as vu, le plus marrant que tu as pu voir, si tu as réussi à en voir, parce que tu es quand même sur un bateau et tu n'étais pas toujours en train de te balader sur la terre ferme à regarder les pingouins, mais est-ce que tu as vu des trucs où tu t'es dit, oh là, ce truc-là, en termes de vie animale, tu te dis, ça c'est fou ça.
Alors moi, c'est les pingouins qui me fascinent.
Ah ouais,
je les trouve. Je sais pas si tu as vu la marche de l'empereur.
Je l'ai pas vu, enfin, j'ai vu que les extraits, j'ai jamais pris le temps de regarder.
Alors voilà, si un jour tu le regardais, c'est juste, je me rappelle, c'est un des films, quand j'étais petite, ma mère m'avait amené le voir au cinéma, qui m'avait complètement fascinée. Je m'étais dit, voilà, je vais à l'Antarctique. Et en fait, j'ai un peu eu ce même sentiment quand je voyais les pingouins, à dire que voilà, il y a différences d'espèces, mais de manière générale, ils sont très curieux. Et je me rappelle quand l'équipe glaciologie était sur le terrain, et des fois on les voyait depuis le bateau, en fait ils venaient avec eux. Je trouve ça hyper fascinant. C'est-à-dire qu'ils sont très, très curieux et ils n'ont pas peur. Et alors que pourtant, en mer de Weddell, ils n'ont pas dû en voir beaucoup, des humains.
Ouais.
Mais c'est des animaux, voilà, hyper curieux. Et, voilà, ils sont trop mignons aussi. Je me rappelle quand j'étais en hélicoptère, j'ai vu cette scène où ils étaient un petit peu, tu sais, à la queue leu-leu. Il y avait une petite descente de glace et je les ai vus, voilà, un par un, faire du toboggan, quoi. Et vivent leur meilleure vie devant sur Atkabé. Je me dis, mais c'est magique. C'est-à-dire qu'ils sont heureux.
Ouais, ils sont heureux, ils se prennent pas la tête, ils cherchent pas des trucs sains. Vas-y, fais un toboggan avec de la neige, on va rigoler toute la journée. Terminé, bonsoir. Jenna, j'aime bien terminer ce podcast par deux questions un peu traditionnelles. La première, c'est si je te passais les clés de la DeLorean pour remonter dans le passé et revivre un seul moment de toute cette expédition, ça serait lequel? Encore une fois, c'est pas encore le plus fou, le plus dingue, c'est peut-être le plus triste, je ne sais pas.
Alors, ce serait ce jour où on arrivait au South Orkney Island, qui sont quand tu retournes vers les Falklands.
Ouais.
Et voilà, je sais pas comment expliquer, mais ce jour-là, on arrive devant ces îles qui sont magnifiques, c'est-à-dire, et c'était les premiers rochers en fait qu'on a revus. Donc c'était
blanc,
plus blanc, mais c'était gris. Et je sais pas, ce jour-là, j'ai eu plein d'émotions parce que c'était beau avec des nuages un petit peu gris derrière. Ça faisait très peur comme endroit, très, voilà, très chargé. Et aussi, c'était bizarre de voir autre chose, complètement différent après deux mois de glace. Et ce jour-là, je me suis sentie tellement calme. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment mon objectif dans ma vie, c'est d'avoir ce sentiment de plénitude tout le temps. C'est plus un sentiment que j'ai eu ce jour-là.
Ouais, ce contraste avec après tout ce que tu venais de vivre, en fait, un espèce de je suis de retour un peu. C'est un peu ça aussi.
Exactement, je suis de retour.
Okay, je suis de retour.
Ouais, exactement.
Et c'était fou. Waouh.
Ouais.
Si tu devais résumer cette expédition, même cette aventure, cette expérience incroyable que tu as vécue en une phrase, une citation ou une punchline de ta création, ce serait laquelle?
C'est une bonne question. Que même s'il faut travailler dur, il n'y a aucun rêve qui est inaccessible.
Bah, ça j'adore. Ouais. Merci beaucoup Jenna, merci pour ce partage généreux d'une expérience qui est vraiment méconnue, qui est réservée à une poignée d'êtres humains qui sont dans ce microcosme, dans cette petite bulle qui n'est pas très médiatisée. Mmh. Merci d'avoir voulu aussi sensibiliser aussi de comment ça se passe, l'utilité de la science, l'utilité des gens qui c'est intense. Enfin, tu nous l'as dit, c'est incroyable le quotidien des scientifiques quand vous êtes en mission. C'est 7 jours sur 7 pendant 3 mois, c'est en autarcie, c'est plein de choses. Merci d'avoir cette générosité-là et d'avoir aussi bah, mis une touche voyage et une touche d'aventure dans tout ça, parce que c'est quand même avant tout une... bah, tu t'es quand même baladé dans une fissure entre un iceberg qui est grand comme Manhattan et l'Antarctique. Il y a deux, trois trucs sympas quand même, hein, tu vois. C'est quand même assez sympa. Fou. Et évidemment, on va mettre tous les liens dont on a parlé dans le podcast en description, si tu veux voir le bateau à quoi il ressemble, si tu veux voir les dimensions de l'iceberg et tout ce qui va bien. Donc, tu auras juste à cliquer dans la description du podcast. Et moi, Jenna, bah, écoute, je te remercie encore et je te souhaite de bonnes expéditions à venir. Il y en aura quand même d'autres ou pas?
Bah, j'espère. Voilà, c'est pour ça que maintenant, je suis retournée au labo pour travailler un peu plus dur et j'espère vraiment repartir. On verra, mais c'est dans ma ligne de... Tu vois,
c'est dans la bucket list.
Mon prochain projet,
ouais,
c'est dans la bucket list. Ouais. Et merci à toi aussi pour tes super questions. C'était un plaisir de partager.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jenna. Et à très vite. Ciao.
À très vite.